Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans Crac Crac, votre partenaire sexo. Alors que cuivre, cuivre, c'est votre partenaire saxo. Voilà, merci. Merci, oui, merci. D'accord. Non mais attendez, ça ne fait que commencer. Et en ma compagnie, Camille Emmanuel. Salut Camille.
Salut.
Et aujourd'hui, le thème de cette émission me touche énormément. Le sexe et la masculinité. Ce thème me touche et je touche souvent ce thème. Et je t'aime ce thème. C'est-à-dire le zizi. La masculinité va de pair avec le zizi. Et la paire va de pair avec ce thème, la masculinité. Cette intro est en train de m'épuiser. Et en ce moment, on parle beaucoup des mutations de la masculinité et de la virilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement en 2019 être un homme? Ce thème soulève autant de questions que moi je soulève de la fonte à la salle, avec un bandeau dans les cheveux, des pecs saillants, de la sueur qui coule entre mes fesses et qui fait une tache dans mon leggings. Bring the noise! Ouais, je suis viril, et y a aucun problème avec ça. Si la virilité était une construction, est-ce que la taille du tournevis, ça compte? Est-ce que plus j'ai des tablettes de chocolat, plus les filles voudront voir mes noisettes? Et quel type de set de table il faut utiliser pour mettre ses couilles sur la table? Désolé les femmes, on va parler de mecs, ok? Parce que là, ça va, là, ça fait des semaines qu'on parle que des filles. Wow, c'est bon les gonzesses, là. Retournez dans vos bureaux de direction pendant qu'on cause entre vrais mecs à la photocopieuse.
Mais qu'est-ce que tu fous, la poulpe?
Je photocopie ma bonne grosse queue.
Bonsoir tout le monde, alors je vois que ça commence avec un gros niveau, hein, bite, poil, couille. Alors pour introduire le sujet sexe et virilité, je vais relever un peu le niveau avec une citation. Ils aiment parler des femmes, les hommes, ça leur évite de parler d'eux. Comment expliquer qu'en 30 ans, aucun homme n'a produit le moindre texte novateur concernant la masculinité? Eux qui sont si bavards et si compétents quand il s'agit de pérorer sur les femmes, pourquoi ce silence sur ce qui les concerne? Alors c'est de Virginie Despentes, dans son essai King Kong Théorie, publié en 2006. 13 ans plus tard, on en est où? Il semble que ça bouge un peu, enfin un poil. Les mecs tout doucement tentent de faire leur révolution sexuelle. Performance, virilité, drague, MeToo, chute de cheveux, être viril sans être un gros con de macho, on en est où en 2019 et surtout qu'est-ce que ça change dans la sexualité? On parle de tout ça avec Victoire Thuaillon, de l'excellent podcast Les couilles sur la table, notre invitée, salut Victoire.
Salut.
Et comme le changement de mentalité, ça peut parfois gêner, comme par exemple une grosse paire de testicules quand on s'assoit dans le métro, c'est mieux quand ça passe par la musique.
Et oui, on est tous très fans du chanteur Eddy de Préto. Eh bien justement, il est avec nous, salut Eddy.
Salut.
Dans cette émission, on va parler poil pubien avec Camille, bitmol avec Maxime. Salut Maxime.
Salut.
Et il va y avoir du répondeur très couillu, Doctissimoche, le courrier des lecteurs. Et en fin d'émission, Love Story, une histoire avec du explicite contente. C'est un sommaire très carré pour une émission pleine de rigueur, mais nous sommes tout de même en roue libre puisqu'il y a avec nous Eddy de Préto. Eddy, je parlais de roue libre. Tu l'as ou pas? C'est parce que par rapport au fait que t'es roue.
Alors attends, je voudrais que tu fasses ça tout de suite ici. Je ne suis pas totalement roux. Je suis plutôt blond vénitien.
Ah.
C'est une espèce aussi rare que roux, oui, mais il en existe.
Bah, pour nous, c'était hyper important que tu sois là dans cette émission parce que, à mes yeux, tu es le premier en France, par le biais de tes chansons, à avoir vraiment questionné le mythe de la virilité. Moi, c'est grâce à toi que je me suis dit, ah mais oui, putain. En fait, c'est un peu de la merde tout ça. Pour toi, est-ce que c'est le thème central de ton premier album ?
Totalement. Tout de suite, quand j'ai voulu faire de la musique, il me paraissait évident de parler de sujets de société. Et je sentais que j'étais enfoui dans des constructions de folie depuis petit, où je me positionnais énormément en tant qu'homme dans le corps d'un homme, mais avec énormément d'injonctions à comment fallait être. Je crois que ça me fatiguait. Je me disais, mais pourquoi j'ai ce sentiment d'emprisonnement ? Pourquoi pas repenser la façon de voir l'homme ? Et pourquoi pas juste d'assumer juste ma partie de féminité qui était en moi, enfin qu'on dit féminin en tout cas.
Justement, il n'y a pas beaucoup d'artistes en fait qui abordent ce sujet, à ton avis, pourquoi ?
C'est des questions un peu de fond. Comme tu disais, on parle beaucoup de la femme et on regarde beaucoup la femme, comment elle doit et comment elle devrait, mais on réfléchit peu sur comment replacer une sorte de, d'homme juste, d'homme à sa place et pour marcher ensemble plutôt que devoir modifier le genre opposé.
Dans ta couleur musicale, t'empruntes vachement au hip-hop, aux musiques. J'ai l'impression d'être Philippe Manoff. Ta couleur musicale. Non, mais t'empruntes vachement au hip-hop, aux musiques urbaines. C'est surtout des musiques macho à la base.
Oui, mais pas que du coup. Non, mais en fait, ça s'est fait assez naturellement dans le sens où quand j'étais plus jeune, j'écoutais énormément de rap. Et quand j'étais devant la feuille, devant la création, il y avait ce débit-là qui venait naturellement. Pour moi, ce qui me paraissait évident, c'est de dire des choses. Après, la forme, c'est un peu, à mon sens, c'est un peu en second temps. Et il se trouve que comment ça sortait, c'était de cette manière-là.
Et c'est compliqué dans ce milieu de faire son coming out, particulièrement dans le rap ?
Non, mais je connais pas ce milieu déjà, parce que il y a pas d'espèce de table où on est tous avec Booba et PNL.
Partez pas en week-end ensemble.
Ouais, non.
Je connais pas le milieu,
mais je m'en fous. J'ai pas senti l'obligation de faire de coming out. J'en ai fait à personne dans ma vie. La question du coming out me gêne dans le sens où pourquoi on devrait. On est encore à cette époque où on devrait encore dire avec qui on baise, à ses parents ou à ses amis.
Cet été, il y a Lil Nas X qui a fait un énorme carton, qui a fait juste derrière son carton mondial, il a fait son coming out. Et je pense que ça, il y a plein de gens où ça leur a fait un truc, tu vois, de dire ouah putain, en fait, ok, bah je reste pas sur mes acquis de clichés de rappeur hyper.
Mais c'est assez fou ce gars, parce qu'il fait de le genre auquel il prend là sur ce tube là, c'est de la country, donc un milieu on est fier d'être et on garde les valeurs anciennes. Et il est gay et noir. Ouais. Et je trouve que ça fait énormément évoluer les mentalités dans ce genre-là.
C'est quoi pour toi être viril ?
C'est d'avoir les couilles sur la table.
Oh ! Du casse !
Ouais, viril. Pour moi, c'est une construction de base. C'est quelque chose qui a été forcé, qui a été comme un monstre en soi.
Carrément, genre Frankenstein.
Ouais. Je pense qu'il est urgent aujourd'hui, je pense que à juste penser le fait qu'en soi on a une construction de genre, et soit tu peux l'assumer totalement, ou soit s'en débarrasser, ou le modeler pour arrêter d'opprimer les gens autour de soi.
C'est bizarre en plus de avant même de se poser la question de comment ou qu'est-ce que ça veut dire être viril, c'est juste pourquoi l'être. Enfin, il y a un truc un peu chelou de à quoi ça sert au final la virilité. C'est pas ça qui va te faire un CDI ou tu vois.
Non, mais ça va.
Si.
Oui, ça peut être ça qui va
dans
te faire
BTP.
Un CDI. Oui, ou dans d'autres
Victoire,
milieux.
Ouais,
bah oui, par exemple, si tu es très efféminé ou que tu montres pas un certain nombre d'attributs virils quand t'es un homme, évidemment que tu peux être discriminé à l'embauche. Évidemment que tu vas avoir envie, quand t'es au pouvoir, de donner le pouvoir à des gens qui te ressemblent.
Eddie, dans ton titre Kid, tu questionnes justement les messages qu'on offre aux petits garçons quand tu parles de construction. Je vais te citer, comme ça te fait un peu de sasem. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine. Est-ce qu'il y a justement des jeunes mecs qui t'ont contacté depuis pour te dire merci, moi aussi je souffre de ça et tout?
Plein. Encore ce matin, il y a un jeune qui me dit donc voilà, j'ai été accepté au refuge, merci beaucoup, j'écoute ta musique depuis énormément de temps, ça m'a aidé à prendre conscience de qui je voulais être dans la vie et juste accepter la réalité de mon être, quoi, de la profondeur de soi, et ça c'est plutôt cool.
Tu penses que c'est quoi le plus urgent à faire dans ces prochains temps? Enfin, est-ce que c'est déconstruire l'image du mec fort, insensible, etc.? Est-ce que c'est la question de la performance, que ça soit au pieu ou au taf? Ou est-ce qu'il y a absolument tout à revoir aujourd'hui?
Non, il n'y a pas tout à revoir. Je pense qu'il y a une prise de conscience, comme je disais tout à l'heure, à avoir des privilèges innés de l'homme qui arrivent et qui ne se rend pas forcément compte des oppressions qu'on peut vivre dans la vie quand on est une minorité. C'est en fait, ce combat ne doit pas se faire sans l'homme qui se dit viril aujourd'hui. C'est à lui aussi de repenser, redistribuer les cartes pour qu'on soit tous dans un système égalitaire et qu'on puisse avancer ensemble. Il faut juste réadapter, rejouer et faire attention à comment on se présente, je pense, quotidiennement. C'est un peu comme tout, c'est comme toutes les discriminations ordinaires, je pense.
Eddie, on est dans une émission sur le sexe. Si je te dis Ray, tu dis quoi?
Ray du cul?
Non, répondeur. T'as l'esprit très mal placé, Eddie. T'es malade, il y a des gens qui nous écoutent. On a un répondeur de l'émission sur lequel des copains et des copines nous laissent des messages. Et aujourd'hui, on a un message de notre ami Nicolas Malouli, qui fait partie de l'association Les Ours de Paris, qui organise chaque année un concours de beauté pour les gros beards gays poilus. Et justement, il nous parle de sa propre masculinité. On l'écoute.
Coucou crac crac, salut monsieur Poulpe. Comme tu le sais certainement, il y a, quand deux mecs se rencontrent, toujours une surprise quand on vient aux choses sérieuses, et aussi une tonne de possibilités dans les deux sens, je veux dire. Je me suis rendu compte assez jeune que, juste parce que j'étais costaud, 1m85, 110 kg, tête rasée, barbu, poilu, etc., etc., qu'on s'attendait toujours de moi que je sois le pénétrant. Alors voilà, donc l'explication de pourquoi j'aime m'habiller avec extravagance, des lunettes à strass, des imprimés léopard, des perles à l'oreille, colliers, bijoux, bagues, broches, etc., etc. À part le fait que ça m'amuse et que j'aime brouiller les codes, c'est surtout pour avoir le physique de ma sexualité et plus la sexualité de mon physique. Mais je peux être actif, même si c'est pas ce que je préfère. En tout cas, quand ça m'arrive, je fais jurer à mon partenaire de pas le répéter. Il y a une limite à tout. Je veux vraiment pas que ça se sache. J'ai mis trop de temps à bâtir ma réputation de passif pour la perdre en rendant service à un gars. Masculinité, virilité, tout ça m'intéresse pas. Quand on me croise dans la rue, je veux qu'on comprenne tout de suite que je suis gros, que je suis pédé, que je suis un gros pédé.
Merci Nicolas.
Bah oui, merci, c'est trop mignon.
Tu penses que dans le milieu gay, ça veut rien dire, mais voilà, est-ce que tu penses qu'il y a plus d'acceptation de la diversité, à la fois des corps et des différents types de virilité, ou est-ce que c'est aussi codifié, aussi
rigide? Non, c'est drôle aussi de voir que dans des communautés qui ont envie de se faire accepter, d'être normalisées pour aller vers les mêmes égalités globales dans le monde, c'est fou qu'il existe aussi en intra des pseudo-discriminations comme ça. C'est pas qu'une histoire de sexualité, en fait, la virilité, c'est là où c'est le plus important. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui m'a desservi sur ce premier album, c'est ah bah parce qu'il est pédé, il parle de virilité, mais non.
Alors c'est beaucoup plus sociétal que...
Oui, c'est beaucoup plus sociétal, et j'aurais aimé, juste pour faire entendre à tous ces hétéros qui pensent du coup que ça ne les concerne pas parce qu'ils sont très bien dans leur rôle et qu'ils sont très bien assis à leur place, qu'il faut bouger, même si il faut réfléchir, il faut questionner, même s'ils ne sont pas pédés. C'est pas que des affaires de pédés, ça.
Tu crois que si t'avais été hétéro, ton message aurait été plus... Je sais pas,
mais en tout cas, même si ça a été une problématique entendue, peut-être que si j'avais été hétéro, ça aurait été peut-être perçu comme une problématique globale et pas peut-être que pour les PD.
Je voyais que tu faisais oui de la tête, Victoire, tout à l'heure.
Oui, ça me faisait penser à deux exemples. Le premier, c'est celui d'un chercheur qui s'appelle Florian Voros, qui a étudié beaucoup l'homosexualité, notamment la pornographie. Et là, j'ai lu un article qui vient de publier où il expliquait comment la figure de la folle, par exemple, donc du mec qui serait trop efféminé, est une figure repoussoire pour beaucoup d'hommes qui se déclarent homosexuels. Et je pensais aussi à un deuxième exemple qu'on avait donné dans un épisode qui s'appelle Les masculinités asiatiques, où l'un des invités qui est homosexuel disait que, par exemple, sur les applis de rencontre, il est pas rare de rencontrer dans les bios des applis de rencontre comme Grindr, donc pour gays, des bios du genre no femme, no femme, no Asian, no fat.
Voilà, ah, tout à fait.
Et c'était vraiment les trois figures repoussoires, en fait. Pas d'asiatique, pas de mec efféminé, pas de gros. Voilà. Et donc, il n'y a aucune raison que certains milieux échappent à des oppressions qui sont plus globales, en fait.
Et d'ailleurs, il y a une queen dans RuPaul qui a fait une chanson après avoir gagné RuPaul Drag Race où c'était genre Asian, fat, machin.
Fat, femme, n'a jamais gagné.
Elle
n'a
pas gagné. Elle n'a pas gagné, mais elle a fait une chanson.
Ouais.
Tout à l'heure, Nicolas nous parlait de la fierté d'être gros et d'être poilu. Et alors, à propos de poils, moi j'ai fait un reportage chez Bonhomme à Paris. C'est un institut de beauté uniquement pour mecs. Alors, ils disent pas institut de beauté, ils disent grooming. Alors, je vais y aller avec ma bite et mon couteau, mais comme j'ai pas de couteau, bah t'es venu avec moi en fait.
Oui, ça m'a fait vraiment plaisir.
Bah voilà, on est devant Bonhomme. C'est un salon de grooming for men. T'es prêt?
Oui, j'ai hâte de me faire raser la barbe.
De te faire groomer. Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai pris rendez-vous pour ce grand garçon pour un service de grooming, épilation intime.
Ça se passe en bas, en cabine. Donc, je vous laisse...
Ok. Suivre. Il doit se déshabiller?
Oui, il doit se déshabiller, bien sûr. C'est parti, suivez-moi. Je vous laisse vous installer. Comme c'est le maillot, il va bien falloir enlever le bas. Moi, je vous laisse la serviette pour vous protéger en m'attendant.
D'accord, pour me protéger de quoi?
Bah, vous pouvez mettre la serviette sur votre maillot, d'accord, protéger votre intimité le temps que j'arrive, et après d'accord, je vais vous expliquer comment on va s'installer.
Okay.
Vous vous allongerez sur le ventre, la tête ou qu'il y a le coussin.
Ok.
Tu sais, c'est comme dans les accouchements, je vais mettre côté tête, comme ça je te verrai pas tant que ça, tu vois.
Parce que, en fait, en termes de MeToo, vu que je suis votre patron,
ouais,
je me rends pas compte où on se situe par rapport à ma queue devant toi un lundi matin.
Il y a une possibilité de procès.
Voilà, ouais. Et Cindy, toi, ça fait combien de temps que tu fais ça?
Moi, ça fait 20 ans que je suis esthéticienne et ça fait 14-15 ans que je fais les épilations pour hommes et le maillot pour hommes.
Ah, c'est marrant parce que c'est plutôt des femmes qui épilent des hommes.
C'est vrai que mine de rien, moi, avec ma clientèle, ils me disaient quand même que je préfère que ce soit une femme parce que souvent, les hommes esthéticiens, ce sont des homosexuels et parfois, ils sont gênés le rapport de homme-homme pour épiler à cet endroit-là.
D'accord. Oui, c'est 50-50 votre clientèle?
Oui, oui, ouais, oui, c'est vraiment tout mélangé, il y a vraiment... exactement. Après, ils se posent beaucoup de questions, donc c'est à nous de les rassurer, parce que tout va bien se passer, il ne va pas avoir de problème d'érection, pas du tout.
C'est leur crainte, ça, de bander pendant le...
Bah, il y en a, oui, c'est leur crainte, hein. mais pas du tout, parce que déjà, on est plus là à gérer un peu l'installation, le stress, donc il n'y a pas du tout...
Moi, ma crainte, c'est plus péter de douleur.
Écoute, j'ai jamais eu personne qui a eu une flatulence, donc c'est que finalement, c'est beaucoup d'a priori, beaucoup de légendes, et la réalité, elle est plus calme, la réalité, en fait, hein, dans la séance d'épilation.
Bon, bah, du coup, je vais rentrer dans la légende, on essaye, on y va.
Donc, du coup, on s'en va, si tu veux, pendant que
oui,
tu déshabilles.
Oui, comme ça, il s'installe ouais, tranquille, et puis...
Voilà, tu voilà, mets ta petite serviette, à tout à l'heure. La zone qui fait le plus mal, c'est quoi?
C'est là où il y a beaucoup plus de poils, donc ça va être au-dessus du pubis. C'est par exemple ceux qui enlèvent tout le maillot. Ça va être un peu cette zone-là qui fait un peu plus mal parce qu'il y a plus de poils et ils ne sont pas forcément tous dans la même direction.
Et au niveau des testicules
C'est complètement supportable. On fait des petites bandes, on n'enlève pas tout d'un coup. On tend la peau aussi, ce qui fait que du coup la peau bien tendue, ça fait moins mal.
On va voir s'il supporte.
Alors, est-ce qu'il est prêt? C'est bon, je peux rentrer? Ok. Alors, on va commencer?
Allez, allons-y.
Donc je soulève, d'accord. Exactement. Donc là, Cindy est en train de me soulever les couilles. Hein, on est vraiment, je...
Bah non, parce que c'est toi qui tiens, regarde.
Mais, et du coup, maintenant, je l'aide et je tiens mes couilles.
Oh là là. Exactement. Alors, okay, tu mets bien ta main ici.
D'accord. Et je tire comme
voilà,
ça.
Il faut okay, que, voilà, la sensation, c'est que la peau est bien tirée, bien tendue.
Okay.
Et comme ça, c'est parfait pour travailler et pour enlever, c'est encore mieux. Je vais appliquer la cire. Ça va la température?
Ça va, c'est
ça,
assez
agréable. Hein,
c'est assez agréable.
Ouais.
C'est pas trop chaud?
Non, ça va. Donc là, on est sur l'aine.
C'est exactement, ça sur le côté l'aine.
Ok.
Je l'enlève.
Ah putain! C'est bon, la première surprend. Hein.
La
après,
première
on,
surprend.
Oui, après, on s'habitue, j'imagine.
Exactement.
Mais c'est pas ça qui me fait le plus peur. Oh,
est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui viennent se faire épiler chez Bonhomme ou dans d'autres salons?
Oui, de plus en plus. De fait, chaque année, il y a de plus en plus de monde. Ça se fait de plus en plus. Après, ça reste encore... C'est intime, ça reste un peu secret. Les copines, parfois, incitent à se faire épiler. Disent, bah ouais, nous, on le fait. Pourquoi vous ne le faites pas?
En tout cas, c'est hyper agréable, la cire sur les couilles.
Alors,
c'est comme un petit duvet.
Est-ce que les mecs aussi le font pour gagner, genre, visuellement, un centimètre de plus, quoi?
Ah bah oui, effectivement, s'il y a vraiment beaucoup de poils, forcément, les 2-3 centimètres de poils peuvent faire cet effet optique.
Ah ah ah
j'y vais.
Ah 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 ah. Bon,
finalement,
Camille, il y a un dernier bloc sur mes couilles. Est-ce que tu veux le faire?
Tu veux que je
le
fasse?
Non, mais t'es sérieux?
C'est une belle conclusion pour ce sujet, je trouve.
Juste, Camille, t'as déjà fait ça ou pas?
Jamais.
Bon, c'est peut-être pas une bonne idée, finalement, que tu le fasses.
Allez, hop,
Cindy, tu la
voilà,
conseilles.
Bon, là, j'ai ma main sur ta bite. Je tends la peau des couilles.
Il tend, toi aussi.
Ouais.
Tend,
oh, c'est là, bleu, là, c'est rigolo, on dirait un schtroumpf.
Je t'ai levé la petite cire.
Et j'arrache tout d'un coup.
Tu arraches et tu arraches vers le bas.
Dans quel sens? Vers le bas? T'es prêt? Attention. 1,
2, 3. Oh.
Ah,
alors,
ça va?
Alors?
Ah, mais ça va, c'était
ouais,
hyper doux.
Parce qu'il restait très peu.
Bon, Camille.
Voilà, on n'a pas commencé.
Écoute,
la séance,
c'est une expérience professionnelle assez riche. Je pense que. Mais tout,
J'ai épilé les couilles de mon boss. Je te reprends rendez-vous pour le mois prochain.
Oui. Merci Cindy.
Merci Cindy.
De rien, merci à vous.
On a tous eu mal pour ça là.
Ouais, en fait, il faut vraiment se mettre un peu de crème hydratante après une fois par jour parce que c'est très rigide.
Pas, moi je sais, en fait, parce que tu sais, c'est un truc de gonze, enfin un truc de meuf, tu vas te faire arracher les poils et tout, donc tu sais tout. Faut pas oublier de se gommer, enfin de prévenir les poils incarnés.
Mais parce que la peau des couilles, vous, c'est pareil pour les lèvres, c'est le même truc? Parce que moi, c'est très rigide. Hein.
Comment
genre c'est très rigide quoi depuis que c'est épilé. J'ai la peau des couilles. Je vois plein de gens qui froncent les sourcils en m'écoutant. Mais maintenant, depuis hier, j'ai la peau des couilles très rigide.
Ok.
Voilà, et du coup, je dois mettre de la crème
hydratante.
Peut-être une
réaction allergique.
Peut-être aller chez le médecin.
Ça s'est infecté.
Après, c'était hyper intéressant parce que Cindy, l'esthéticienne, nous disait que les mecs hétéros qui viennent se faire épiler une épilation intime, on va dire ça. En fait, c'est souvent parce que c'est leur copine qui leur demande. Mmh. C'est intéressant quand même,
ouais.
Ça. En parlant de ça, parce que tu vois, tu fais un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table. Moi, je viens de me les faire épiler. Est-ce que vous voulez que je les mette sur la table pour voir le travail de Cindy ou...
Avec plaisir.
Oui. Tu veux montrer?
Moi, j'aimerais bien. Ouais.
Je vous les sors. Voilà, petit homme brisé, petit ange parti trop tôt. Je vais vous montrer mes couilles.
Elles sont hyper lourdes.
Je dis, elles sont très rigides. Elles sont très rigides.
Elles sont fat de ouf.
La plupart des hommes ont une bite, généralement entre les jambes. Mais un seul homme en a une à la place du cerveau. Il s'appelle Maxime Donzel. Il a le meilleur générique du monde. C'est le moment de Culture Beat. Culture Beat.
Et oui, bonsoir. Alors voilà, je m'appelle Maxime et je vois des bites partout. Alors je viens vous expliquer où on peut voir du sexe dans la pop culture. Et aujourd'hui, pour cette spéciale c'est horrible, je peux même pas dire le mot en fait. Je vais vous parler de bites comme d'hab, mais de celles qui sont en ce moment même en train de faire la sieste au fond de nos boxeurs, les bites molles. Bah oui, parce que ça va peut-être vous surprendre, mais moi, j'ai une appréciation toute particulière pour les pénis flasques. Ils sont tout mignons avec leurs petits chapeaux et leurs gros bidous. Il y a pas que les bites qui sont excitantes. Et pourtant, je peux me toucher avant d'en trouver une dans un porno. Hein. Ces acteurs ne font que bander, c'est très pénible. Alors heureusement, il y a la pop culture qui, après avoir été un véritable désert de gobites, commence à regorger de popoles qui pendent. Alors, il y a deux catégories de bites molles à l'écran. La première, c'est la bite qui passe tellement vite que si tu clignes des yeux, tu l'as loupé. C'est comme dans Fight Club, par exemple, où Brad Pitt s'amuse à insérer des photos de tub dans les films familiaux.
Les spectateurs ne se doutent de rien, mais ils l'ont vu. Une grosse et belle queue.
Ah oui, si, moi je l'ai vu tout de suite. Oui, mais c'est sûr qu'il faut avoir l'œil. Hein. Moi j'ai un radar à bite, c'est un peu mon super pouvoir. Même la bite à Ben Affleck qu'on voit une microseconde dans Gone Girl, j'ai réussi à la voir. Et je n'oublierai jamais. Mais tout le monde n'a pas ma chance. Alors, pour les autres, il y a la deuxième catégorie, la bite blague. Ces films où un personnage masculin se retrouve nu et lol, on voit sa bite.
J'ai une surprise pour toi.
Hey, alors ça c'est dans Sans Sarah, rien ne va. Alors ok, j'admets qu'une bite molle c'est grotesque. C'est là, ça pendouille, ça flippe et ça flop pendant qu'on parle. Allez, je vous remets même le son. Encore une fois. Oui, c'est pas parce qu'on aime pas la saucisse de Morteau qu'il faut dégoûter les autres, hein. En fait, le réalisateur du film, Judd Apatow, avait expliqué à l'époque qu'il voulait insérer au moins une bite dans chacun de ses films afin de lutter contre la peur américaine du pénis. Et comme il fait des comédies, flop flop. Encore une fois. Mais tout ça c'était avant. Parce que cette année, une série a décidé de faire complètement exploser le compteur de bites. C'est la série Euphoria, avec notamment une incroyable scène dans des vestiaires où un footballeur est mal à l'aise.
Ses équipiers qui lui parlaient, la bite à l'air. Ils faisaient des efforts de malade pour pas regarder leur pénis quand ils lui parlaient.
Exactement l'inverse de moi. D'ailleurs, j'ai compté 19 bites au repos dans une scène de 40 secondes, soit une bite toutes les 2 secondes. C'est un festibite. Oui, j'ai dû me sacrifier et regarder la scène une quinzaine de fois pour réussir à dresser cette statistique passionnante. Alors vous me direz, c'est quand même fou que le porno se fasse doubler par les séries de HBO sur le marché de la bite molle, mais j'ai trouvé une solution. En fait, sur les sites de vidéos porno, il existe une catégorie assez méconnue. C'est les vidéos d'hypnose de dévirilisation. C'est pas une blague, vous tapez hypnose brainwash par exemple, il s'agit de vidéos qui attirent le chaland avec une image intrigante, et puis alors d'un coup, pof, l'image se met à clignoter très rapidement, en alternant des symboles féministes et des termes genre obéi, porc, castration, gynarchie, et au son, une boucle qui a pour but d'hypnotiser les hommes pour qu'ils n'arrivent plus à bander. Je vous promets que c'est un vrai truc, celle-ci vient du compte Evalise.
Tu n'arrives pas à donner du plaisir, tu n'arrives pas à bander, tu
n'arrives pas à donner du plaisir, tu n'arrives pas à bander, tu n'arrives pas à donner du plaisir, tu n'arrives pas à bander.
Et voilà, et alors si par hypnose, mais ce serait formidable si par hypnose on pouvait rendre les hommes impuissants, ce serait vraiment mais bingo pour les amateurs de beat molle comme moi. Puis alors, double effet qui se coule, je pense qu'il n'y aurait plus de guerre. Donc partagez ces vidéos massivement, envoyez-la à vos collègues, à vos amis, envoyez-la à Poulpe tous les jours s'il vous plaît, et au gouvernement pourquoi pas, en vous remerciant.
Merci Maxime.
Waouh.
C'est incroyable ce truc d'hypnose.
Elles
là.
Sont merveilleuses ces vidéos.
Mais à quelle fin? Bah, c'est de déviriliser tout le monde.
Oui, bah les hommes surtout.
Victoire, tu as créé le podcast Les Couilles sur la Table. Déjà bravo pour ce nom.
Merci.
Bravo. Tu as enregistré plus de 50 épisodes.
Tout
c'est
à fait.
Énorme. Bravo Victoire. Je t'applaudis seul. Non, les gens me rejoignent. C'est une standing ovation. Bravo. Podcast qui est devenu un livre d'ailleurs. Les Couilles sur la Table.
En librairie.
En librairie.
Très
partout.
Bon cadeau de Noël.
Oui. Non mais c'est vrai, ça vient de sortir là maintenant. Il faut l'acheter pour Noël, c'est super. Pour la tata, par exemple, on peut lui offrir
pour le tonton.
Sur... Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de parler des masculinités?
Eh bien, la vraie réponse de véritable que je ne dis jamais, c'est parce que j'aimais quand même beaucoup les garçons. Donc voilà, ça m'intéressait quand même.
Comme sujet. Ça.
Bah, oui. Ouais. Très sérieusement, en fait, on parlait des hommes tout le temps, mais sans jamais dire qu'on parlait des hommes. C'est-à-dire qu'on considère que l'individu neutre et universel est masculin, en réalité. Et donc, ça m'intéressait de retourner le regard, en fait, et de retourner les questions. Au lieu de se dire pourquoi il y a tellement de filles qui sont violées, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi il y a autant de violeurs, en fait.
Bien sûr.
Est-ce que c'est, selon toi, c'est un besoin des hommes ou un besoin particulièrement des femmes, comme toi, de déconstruire les stéréotypes sur la virilité?
Mais de toute façon, on vit tous et tout ensemble. Mmh. Donc, en fait, c'est vraiment le genre, c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde. Et oui, je pense que c'est une nécessité pour chacun et chacune, quel que soit son genre, de réfléchir aux stéréotypes auxquels on obéit et à comment on peut les déjouer, puisqu'ils sont en fait nocifs pour tout le monde.
Il y a, dans ton livre, tu écris un truc hyper intéressant, je trouve. Tu dis que le féminisme ouvre d'immenses territoires de réinvention, de créativité dans nos pratiques de séduction et d'érotisme. Mmh. Tu peux nous expliquer en fait en quoi le féminisme, ça va aussi vers une sexualité plus épanouie?
Bah, d'abord parce que tu en parles. Ensuite, parce que si tu te poses la question de ton désir, bah, tu ne perçois pas du tout le consentement de la même façon. Et donc, tu n'es pas là pour répondre à une demande masculine. En réalité, tu es là pour t'affirmer comme sujet de désir. Et donc, en face, si tu es hétéro, enfin, ou si tu as des relations avec les hommes, et bah, forcément, ça bouleverse ensuite les rapports que tu as avec eux. Et eux, ça change aussi leur pratique, en fait. Forcément. Donc en fait, si on est très concret, ça peut être de se dire, mais pourquoi est-ce que dans une relation hétérosexuelle, on considère toujours que la pénétration, c'est le plat principal? Pourquoi est-ce qu'on appelle toutes les autres pratiques, elles sont soit ridiculisées, soit reléguées au rang de ce qu'on appelle les préliminaires? Mais
moi, je pense qu'il faut interdire ce mot-là, enfin, faut supprimer
plus
ce
jamais,
mot du dictionnaire, en fait.
Moi aussi, je suis complètement d'accord.
Peut-être on pourrait juste dire des moments coquins. C'est quoi, selon toi, au niveau du sexe, les gros changements que devraient opérer les hommes dans leur sexualité pour changer un peu les choses?
Je pense que ça dépasse la sexualité, mais je pense que la masculinité, ça va aussi avec une éducation au manque d'empathie et au manque d'attention aux autres. Et que c'est même un point central de la construction de la masculinité, en fait. Que être un homme, un vrai, c'est ne pas faire attention aux autres, en fait.
Ouais.
Et que c'est ça qui prouve que t'es un homme.
Donc ça veut dire une construction un peu égoïste du petit garçon?
Oui, à ouais. considérer que ton propre désir et ce que toi tu veux, ça vaut plus que celui des femmes en face de toi. Donc je pense que de manière générale, c'est de faire vraiment attention aux autres, en fait. C'est des qualités d'empathie et d'attention. Et ça, ça se développe et on en est tous pourvus parce qu'on est tous et toutes humains, en fait. Donc on peut y arriver.
T'es ouais, d'accord, Eddy, avec...
Totalement, totalement. On est éduqués dans le sens où les femmes doivent affairer face à nous, pour nous, et toujours nous préparer les choses.
Et dans la sexualité, oui, ça peut être vraiment de remettre en place, en question la place centrale de la pénétration, pénis-vagin, ouais. mais aussi, puisque tu parlais de bite molle et d'érection, en fait, la place centrale de l'érection, est-ce que vraiment, si tu bandes pas, tu peux pas faire l'amour? Moi, je crois pas. Je pense que tu peux faire l'amour même si tu bandes pas, en fait.
Et après, c'est un fait. Tu peux, absolument.
Je pense qu'il y a des mecs qui gagneraient, particulièrement les hétéros, à faire beaucoup plus attention à leur apparence physique. Mmh. Je ne dénoncerai personne, mais...
Et à changer de slip de temps en temps.
Ou à penser à se couper les ongles de pied. À penser à... Tu vois,
et
à
les ongles de main.
Et les ongles de main.
Alors, bah ouais. Bon, les ongles de main, en plus, ça pose un autre problème par rapport aux ongles de pied.
Bah, exactement.
Voilà, c'est que quand même, ça fait mal hein, si tu touches une vulve avec les ongles longs. Et autre chose, à part se couper les mains tant qu'on y est, se laver les mains.
On rappelle les règles d'hygiène de base qu'on explique aux enfants de 4 ans. Mais
bah oui, mais t'as plein de types qui trouvent ça normal de te mettre des doigts dans la chatte sans se laver les mains. C'est, enfin, c'est quand même.
Après avoir caressé Gordon. Victoire, si t'étais la présidente de la France, et franchement, je voterais pour toi aux prochaines élections. Si t'étais la présidente de la France, ça serait quoi tes mesures concrètes pour régler le problème de la masculinité relou en France ?
Je pense que le problème n'est pas tellement les lois, le problème est qu'elles ne sont pas appliquées. Mais il est évident que là, il y a des. En fait, tout ça ne dépend pas que de changements individuels, même si c'est important. Bien sûr que les hommes se questionnent, qu'ils fassent évaluer leur représentation, etc. Mais ça dépend de politiques publiques, en fait, d'envergure. Il faut d'énormes campagnes d'éducation à destination des plus jeunes, bien dans sûr. Les écoles, les collèges, les lycées, donc d'éducation sexuelle, ce qui implique des réflexions sur le désir, sur le consentement, sur les violences, mais aussi sur l'anatomie. Enfin, on reste quand même avec un quart des jeunes filles de moins de 15 ans qui ignorent qu'elles ont un clitoris. C'est quand même. Et puis ensuite, si j'étais présidente, j'abolirais cette fonction et je ferais en sorte que ce soit une énorme révolution. Je pense que c'est ça.
Ton œil est devenu tellement sombre en 10 ans. J'ai vu le vrai visage de Victoire, l'anarchie. Victoire, Eddy, vous savez, ce podcast est interactif. C'est-à-dire qu'on pose des questions et vous nous répondez. C'est de l'interaction, ça s'appelle. Mais il y a aussi des internautes qui posent des questions. Saurez-vous y répondre ? C'est le moment de la FAQ. Très cul de l'émission, le moment où on lit des questions authentiques d'internautes, mais un poil dingo-dingue. Donc c'est vraiment des gens qui ont vraiment posé des questions sur des forums sexo. Et c'est notre rubrique Doctissimoche. Eddy, on n'a pas de générique Doctissimoche. Est-ce que tu peux nous chanter un jingle ?
Doctissimoche !
Voilà, c'est là le talent qui s'exprime. Voilà. Alors, je vous lis la première question de Anonyme546. Bien doté d'un pénis d'une excellente longueur et bon diamètre, j'ai malheureusement de très petits testicules de la taille d'une grosse noisette. Et oui, il faut les chercher et plusieurs femmes m'ont demandé si j'en avais après avoir tâté mon scrotum. Pour pas avoir l'air con, je me les attache avec un cordon pour qu'ils soient visibles. Et là, ça passe. Comme ça fait bondage, elles aiment me les serrer. Est-ce normal ?
Qu'est-ce qui est normal ?
Il y a plusieurs
niveaux à la question.
Est-ce normal taille de ces testicules ?
Je pense que ça, on est dans du niveau médical.
Voilà. Donc en fait, il faut aller montrer.
Du côté de attacher ces testicules avec un cordon et que les filles aiment bien serrer ces testicules. Je crois que c'est ça la question. Est-ce que c'est normal que les filles, voyant des couilles mises en avant par un cordon, aiment les serrer ?
Mais en fait, c'est marrant cette question de être normal, parce que c'est vraiment la question que les gens se posent vachement par rapport à la sexualité.
Oui. De c'est la question
norme,
numéro 1.
Est-ce que je suis normal et tout, mais gars, est-ce que ça te fait plaisir ? Est-ce que ça te fait mal si on te serre les testicules ? Si oui, il faut le dire.
Et c'est fou, c'est quelque chose d'assez personnel, d'assez intime, et donc où il n'y a aucun regard, c'est-à-dire qu'il est dans une chambre avec quelqu'un, ou avec, je ne sais pas, ou plusieurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça reste intime, et il vient l'exposer sur Internet pour demander si c'est normal, donc rendre visible le truc à tous, alors que chez soi, personne ne le saura et son activité peut rester totalement secrète. Donc,
c'est un besoin d'être rassuré, je
qu'il
pense.
Vive sa vie,
d'autres personnes qui vivent la même chose.
Mais vis ta vie.
Ouais, c'est ça. Mais peut-être il peut leur demander d'autres trucs. Moi, je crois vachement aussi, quand tu dis comment les pratiques peuvent évoluer, à demander les choses.
Parler.
Demande ce qui te fait kiffer. Quoi. Ouais. Tu peux dire à tes partenaires caresse-moi plutôt que les serrer ou si tu essayais de faire ceci ou cela. Enfin, je sais pas.
Dernier message de 73 SN. Je peux dire que je n'aime pas beaucoup les femmes qui sont trop masculines, cheveux courts, qui ne portent jamais de jupe ou de mini-jupe, qui se prennent pour des mecs. Mais où sont les vraies femmes ? Celles qui sont douces, sensuelles, à l'écoute, maternanantes et maternelles.
Ah bah oui.
Sexy ? Hein ? Où sont-elles ? Et qui sont solidaires de leurs compagnons et qui ne l'abandonnent pas au moindre problème. Il y en a de moins en moins, hélas, en voie de disparition.
Il est bien, hein. Alors, ben, on n'a pas de questions, là, mais en fait, c'est...
Il dit où sont les femmes maternelles et maternelles.
Bah, le truc, c'est qu'on parle depuis tout à l'heure entre nous, là, entre gens de bonne compagnie, n'est-ce pas ? Mais des constructions, la virilité, tout ça. Mais en fait, il y a pas mal de mecs, même certaines femmes, qui pensent comme SIL73SN, quoi, qui pensent qu'il y a une féminisation...
Des sociétés,
des hommes et une masculinisation, enfin, tu vois, genre que c'est le bordel.
La grande peur, ouais.
Toi, c'est un retour que tu as aussi, Victoire, sur ton podcast ou sur des gens qui disent genre, bah non, on va dans.
Bah, ce qui est sûr, c'est que se conformer à des codes de genre peut être extrêmement confortable. Franchement, je comprends que tu n'aies pas envie de le remettre en question, quoi. C'est-à-dire que quand tu es un mec, tu grandis avec l'idée que ce qui est codé comme masculin, c'est supérieur au féminin. Donc, comme toi, tu es supérieur à la moitié de l'humanité, ça crée un certain sentiment de valeur, quoi. Il y a plein de gens qui ne sont pas prêts à remettre ça en question. Je suis vraiment désolée pour eux parce que ces carcans-là nous enferment vraiment. Et donc, la demande là, qui est faite, de femmes qui sont douces et maternantes et tout, mais je comprends bien sûr que c'est agréable de penser que la moitié de l'humanité va être à ton service.
Mais comme il y a des minorités aussi, comme il y a plein de minorités qui sont très bien, qui se disent qui se disent très bien aussi dans leur rôle et qui veulent pas bouger ça, qui sont très à l'aise avec... Moi j'ai rencontré un homme gay qui me disait mais moi j'ai pas envie d'avoir les mêmes lois que les hétéros, je veux pas être dans un système de normalisation, je veux être très bien de ce regard là. Et je trouve que pour l'égalité et l'indifférence de toutes ces choses-là, choses qu'on cherche à avoir tous ensemble, il faut forcément questionner et bouger tous ensemble là-dedans.
Mais oui, c'est la panique pour plein de gens.
Ouais.
Ouais. La panique de l'indifférenciation en fait, genre ah mais vous voulez qu'on soit tous pareils en fait, vous voulez que les femmes elles ressemblent aux hommes et que les hommes elles ressemblent aux femmes, donc on va tous être pareils, et c'est absurde quoi, alors qu'il y a tellement de diversité possible et tout, enfin
et on peut leur dire que ça va bien se passer,
ça va aller
tout va bien se passer les garçons. Alors j'ai des recommandations, un documentaire vraiment génial d'un jeune réalisateur canadien, Russell Schoeffer, qui s'appelle Masculinity et Femininity, qui a été réalisé en 2014. Je vous le recommande vraiment. Il a interrogé des dizaines de personnalités et d'artistes sur leur rapport à la virilité et à la féminité. Il peut être loué sur Vimeo. Un livre que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Voyage autour de mon sexe de Thibaut de Montaigu, 225 pages sur son rapport à la masturbation, et c'est très drôle et c'est passionnant. C'est aux éditions Grasset. Enfin, beaucoup plus prosaïquement, pour tous ceux et celles qui se posent des questions sur le plaisir prostatique, on en a parlé tout à l'heure, il y a le site nouveauplaisir.fr, au pluriel, c'est une mine d'or d'infos sur le fameux point P. Alors, il y a 2 ans, moi, j'ai failli écrire un livre qui s'appelait le GDBL, le grand livre de la bite. Bon, je sais pas si ça aurait été un best-seller, mais je me disais, est-ce que un bouquin sur la sexualité masculine, est-ce que ça m'intéressait les mecs, les filles aujourd'hui, je sais pas. Et après cette émission, on peut se dire, mais oui, c'est un putain de sujet, il faut vraiment décortiquer le sexe des hommes.
Ouais, après, si tu peux prendre une autre image, Camille, parce que décortiquer le sexe, moi, par rapport au fait que je me suis fait déjà épiler les couilles pour cette émission, peut un peu laisser tranquille, au moins laisse le frein
alors,
tranquille.
Alors, c'est le moment de Love Story, le moment narratif où on lit des histoires de cul, le moment où on mouille les lobes.
L'émission pour les oreilles chastes s'arrête maintenant. Donc les gens qui veulent rester propres de tout propos peuvent arrêter le podcast. Et là maintenant on bascule dans le contenu explicite de cette émission. Et si on a bien compris quelque chose d'ailleurs dans cette émission, c'est que les hommes ils aiment 2 trucs, corrigez-moi si je me trompe, le sexe et les autos. Les autos par auto, j'entends des bolides, hein, les voitures. Est-ce que t'es d'accord avec ça, Victoire ? Dis-moi oui, tu vas m'arranger.
Je mens jamais. Oh.
Elle a dit oui.
Et justement, c'est qui... Et justement, c'est qui la meilleure de toutes les voitures ? C'est K2000. K2000, un vrai bolide. Alors pour tous ceux qui connaissent pas K2000, c'est une voiture robot, c'était une série des années 90, c'est une voiture robot qui parle et qui est pilotée par le héros qui s'appelle Michael, et ils vont résoudre ensemble des enquêtes. Et donc pour ceux qui connaissent pas ce que c'est que les voitures, en fait c'est le truc qui était dans les villes qui polluait un peu et qui a été ensuite remplacé par les trottinettes électriques.
Et donc pour ce Love Story, on a trouvé un texte de cul réunissant les deux passions, le sexe et les automobiles, une vraie fanfiction porno sur K2000, c'est un vrai texte qu'on a traduit, un texte mécaphile, la mécaphile. Caphilie, c'est les gens qui sont excités par le fait de faire l'amour avec des objets mécaniques.
Tu connais ça, Victoire, tu fais oui de la tête.
Oui, ouais, tu peux, c'est assez subversif et tout, tu peux aimer baiser avec des machines, ouais.
Tout à fait, comme dans Crash.
Alors, on va lire cette fanfiction qui a vraiment été, c'est vraiment, on l'a trouvé sur internet, on l'a juste traduit. Donc du coup, moi je vais faire Michael Knight, le héros, Camille, tu fais la narratrice, et toi, Eddie, tu vas faire la voiture.
Ah,
tu vas faire kit. Donc on va mettre un effet pour que t'aies une voix robot.
Ok, très bien.
Et toi, Victoire, bah, tu nous juges.
Je vous écoute.
Tu nous juges du regard, d'accord.
Ok, je sais hyper bien faire ça en plus.
Love Machine par Vespertine Dreams. Sur le bord d'une route, tard le soir, Kit avait obscurci ses fenêtres pour éviter les regards indiscrets. Il inclina un peu le siège de Michael.
Est-ce que ça va, Michael?
Je sais pas le faire du tout.
C'est parfait.
On refait.
Il inclina un peu le siège de Michael.
Est-ce que ça va, Michael ?
Michael pouvait l'écouter toute la journée, cette voix ronronnante lui donnait des frissons.
C'est parfait, Kit.
Soudain, la voiture robot décida de lancer un film sur l'écran, un porno.
Tu aimes regarder cet homme se faire pénétrer ?
Oui, je crois, même si je préfère les voitures.
Ouh. J'en clignote de plaisir. Que veux-tu que je te fasse ?
Je veux que tu me baises, Kit. Je veux pouvoir te sentir dans mon cul. Que tu actionnes ce levier de vitesse high-tech et que tu me remplisses avec, Kit.
Certainement, Michael.
Michael ôta sa chemise et son jean pour les jeter sur le siège passager. Il ferma les yeux et sa tête retomba contre l'appui-tête. Sa peau nue contre les sièges en simili-cuir de Kit.
Mets tes pieds sur le tableau de bord, bien écarté. Et retiens ton souffle.
Soudain, le gros pommeau du levier de vitesse mécanique lui cingla le cul.
Est-ce que tu aimes ça, Mickey Knight ?
Oh oui, Kit. Tes datas sont si perverses, mon Dieu. Ça fait tellement du bien. Pénètre-moi comme deux chevaux.
Michael se laissa emporter. Les capteurs de Kit lui indiquèrent que Michael aimait ça.
Est-ce que ça va, Michael ? Embraye. Embraye. Je vais passer la cinquième.
Ah, Kit ! Ah,
oh, 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 oh.
Ah.
Alors que Kit mugissait de plaisir et ouvrait toute grande sa boîte à gants, Michael tendit la main et caressa tendrement le tableau de bord de Kit. Une pensée lui vint alors qu'il jetait un coup d'œil sur l'écran, maintenant figé sur son image alors qu'il jouissait.
Écoute, Kit. J'ai besoin que tu verrouilles tous tes fichiers images afin que les autres ne puissent pas y entrer, d'accord ?
D'accord. Même la caméra de recul.
Surtout ta caméra de recul, ce sera notre secret.
Ce sera notre secret. Vroom, vroom.
Bravo.
Elle est trop bien, c'est ça.
Merci beaucoup. Merci.
Victoire Tuaillon, on rappelle que ton livre Les couilles sur la table est sorti en librairie et qu'on peut écouter ton podcast sur toutes les plateformes. Merci beaucoup d'être venu dans le Crac Crac.
Merci de m'avoir invité.
Merci vraiment, Victoire. Et Eddie de Préto, on rappelle, ton album Cure est toujours disponible. Il faut l'acheter, il faut le consommer normalement.
Ah, allez-y.
On va le racheter même plus
le racheter,
fois.
Achetez-le pour Noël.
C'est Noël, on peut acheter les couilles sur la table et à nouveau.
Franchement, ça fait un bon pack virilité. Tu vois, les couilles. Plus
au
cure.
Tonton, tu offres ça au tonton,
ouais,
père. Okay.
Et puis Eddie, non, mais t'es en train d'écrire ton prochain album.
Voilà.
Donc on te fout la paix, tu vas retourner à ton bureau et écrire avec plein de fautes d'orthographe. En tout cas, on l'espère.
Merci Eddie, on remercie aussi Maxime Donzen.
Merci à vous.
On se retrouve dans 2 semaines sur MyCanal et toutes les plateformes de podcast.
N'hésitez pas surtout à partager ce podcast et à en parler autour de vous. C'était Crac Crac. Bonsoir à toutes.
Et bonsoir à tous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.